Bonjour Iris Kaufmann, vous êtes en résidence au Rocher d'Ongles. C'est un petit village en Provence, à la Maison Picasio plus exactement, une maison qui accueille régulièrement des artistes dans la région de Fort-Calquier. Vous êtes invité par le numéro 0, c'est un festival de cinéma et de création radiophonique dans le pays de Fort-Calquier. Ça existe depuis 3 ans et cette année, eh bien, ce festival ça va se dérouler du 22 au 25 juillet. Et donc, cette résidence, elle dure depuis un moment. Depuis quand vous êtes là, Iris Kaufmann?
Alors, petite rectification. En fait, j'étais en résidence à la Maison Picasio au Rocher d'Ongles en janvier et février. Alors, initialement, ça ne devait être qu'en janvier. Finalement, ça a été prolongé aussi parce que les conditions ne simplifiaient pas forcément le terrain. Au départ, il était quand même question de rencontrer des gens dans la rue. Ça s'est avéré un peu plus compliqué que prévu. Et il se trouve que depuis, je suis aussi de retour dans la région. Donc voilà, je suis revenue composer mon documentaire pour le mois de juillet, plutôt du côté de Pierrerue cette fois-ci.
Oui, parce que vous allez proposer un documentaire pour ce festival numéro 0 en juillet.
Oui, alors j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée cette année par la Miroiterie pour réaliser ce documentaire qui sera mon premier documentaire sonore par ailleurs. Et je me sens très chanceuse d'avoir cette opportunité-là et d'avoir pu aussi travailler du coup sur un pays que je connais un peu, mais sur une thématique que je connaissais un peu moins, qui est celle de l'art campanaire. Donc à savoir tout ce qui concerne les cloches plutôt d'église et de carillon, puisqu'il se trouve qu'à Fort-Calquier, on a la chance d'avoir aussi un carillon assez exceptionnel.
Donc, oui, qui a été rénové il y a quelques années et qui... Et tout en haut de la citadelle qui domine ce village de Fort-Calquier.
Voilà, que certains considèrent peut-être à juste raison comme une forme de blason sonore, voilà, ce qui n'est pas donné à toutes les villes, je crois.
Donc, Et puis on peut l'entendre régulièrement sonner, notamment le lundi matin lors du marché.
Oui, tout à fait.
Et vous avez rencontré des gens de ce carillon, d'ailleurs. Ça fait partie de votre travail de terrain?
Oui, tout à fait. Eh ben, j'ai d'abord rencontré qui est considéré comme le carillonneur, donc qui a précédé un peu ceux qui l'accompagnent aujourd'hui. Ils sont quatre à se produire régulièrement. Ils sont tous des musiciens amateurs. Donc c'est aussi une des particularités, je trouve, de cet instrument, parce que c'est un instrument de musique, voilà, qui est chromatique, qui est accordé. Et qui est donné à entendre à tous, mais qui est quand même réservé à un usage bénévole et amateur, ce que je trouve assez génial, en fait, du point de vue de ce que les gens peuvent partager, du coup, au niveau d'une communauté villageoise. Et donc, j'ai rencontré Sylvain Roman, du coup, à ce titre, qui est carillonneur depuis une trentaine d'années, je crois. Et ensuite, ceux qui l'a formé ou qui se sont formés au fil des ans, notamment Elisabeth Vasseur et Éric Boulanger. Elisabeth Vasseur qui m'a donné un cours de carillon aussi à l'école de musique. Et puis après, des personnalités, parce qu'en fait, ce carillon a quand même été en grande partie financé par les habitants de Fort-Calquier. Et du coup, les cloches portent les noms de leurs donateurs, ce qui est un peu particulier. C'est...
Et ce qui est particulier aussi, c'est la manière de jouer le carillon. Je ne sais pas si les auditrices et auditeurs ont déjà vu, ne serait-ce qu'une vidéo. En tout cas, on joue avec les poings, donc il y a quelque chose de très brut quand on joue de cet instrument. Et c'est possible de les voir aussi, ces personnes en haut de la citadelle de Fort-Calquier, puisqu'ils sont derrière une paroi de verre. C'est un carillon transparent.
Voilà, c'est exactement ça. Les deux particularités de ce carillon, c'est que on a cette chance de pouvoir voir le joueur en action, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des carillons qui restent souvent dans des bâtisses en pierre, ou donc dans des campaniles ou des choses comme ça. Et y a ce clavier à coups de poing aussi qui est une des particularités. Il me semble que c'est l'unique carillon en Provence qui dispose de ce type de clavier. Et je sais que c'est l'unique carillon en Provence qui soit reconnu aussi par la Guilde des carillonneurs, parce qu'ensuite, ça s'inscrit aussi dans un réseau de joueurs de carillon, quoi, à niveau
oui,
national.
C'est un réseau qui se connaît, qui se reconnaît.
Oui, voilà.
Alors, vous avez une dimension sonore de prise de son de ces cloches et sonailles aussi. On n'en a pas parlé de cette dimension sonaille, mais on va y revenir. Et il y a aussi une dimension interview. On est vraiment dans la rencontre du son, de pure création sonore et de rencontre humaine.
Oui, bah oui, parce que l'idée, c'est aussi d'interroger les gens qui fabriquent ou qui sont amenés à entendre ces paysages sonores qui sont assez emblématiques, voilà, parce que le carillon à Fort-Calquier, c'est quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. Et puis, au départ, j'étais partie de cette idée que dans l'ensemble des villages environnants, les cloches sonnent encore tous les jours, ne serait-ce que pour nous indiquer l'heure, mais elles nous donnent aussi d'autres informations. Du coup, j'avais dans l'idée de questionner un peu les habitants sur les interprétations qu'ils avaient de ces signaux. Est-ce qu'ils les comprennent toujours? Est-ce qu'ils les écoutent? Est-ce que ça leur provoque des émotions? Et après, bon, j'ai aussi fait un terrain plus spécifique sur le carillon et son histoire, puisqu'il a été restauré il y a quelques années de ça, et entièrement reconstruit. Donc il y a toute une aventure humaine au niveau des habitants de Fort-Calquier qui est assez dingue, où ils sont partis en Lorraine pour apprendre à construire l'instrument, en fait. Ils ont transporté les cloches. Enfin, c'est eux qui l'ont monté, en fait. C'est les gens d'ici qui l'ont monté sur place, en haut, avec leurs petites mains et leur grand savoir.
Eh bien, je vous propose d'écouter votre premier carnet sonore. C'est une sorte de journal de terrain qui témoigne de ce dont vous venez de nous parler. Et notamment, vous allez pouvoir entendre Sylvain Roman dans Le Carillonneur. Dans ce carnet numéro 1, ça s'appelle L'Entendre du Carillon.
Et le carillon à l'époque il jouait à 9h. Bon, donc forcément c'était un peu plus tôt, et donc il réveillait un peu tout le monde, quoi. Donc un jour j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait avant, parce qu'on le voyait de l'extérieur, on voyait des cloches, mais on savait pas comment c'était fait dedans. Et puis là j'ai rencontré le carillonneur. Bon, le hasard faisait que lui il allait s'arrêter. Et je suis monté jouer le samedi après-midi et j'ai jamais pu arrêter.
Dans la famille, on est musicien quand même. Et puis, j'ai toujours beaucoup aimé entendre ici, parce qu'on venait chez mon grand-père ici et moi, on venait tous les ans. Et en fait, c'est vrai que moi, j'adorais ce son. Donc, quand on s'est installé définitivement ici, j'ai demandé à Sylvain, je dis, je voudrais bien jouer. Il m'a dit, bah,
ce qui est un peu exceptionnel et qui est unique à Fort-Calquier, c'est qu'on voit le carillonneur en train de jouer et les cloches qui sonnent. On le voit nulle part ailleurs. Il est particulier aussi par rapport à l'emplacement qu'il a, parce que par rapport à sa position au bord du plateau, quand on joue, ça s'entend partout dans la ville. Parce que dans les autres villes, suivant où ils sont placés, la pollution, on va dire urbaine, elle écrase le son des cloches, et on n'entend pas. Alors on entend un peu dans le quartier autour, mais après on n'entend pas. Les scaphores à qui, ça s'entend partout.
Là où je suis, il y a un bouquet d'arbres là-bas.
Oui.
Je suis là.
D'accord.
Je l'entends très bien.
Ils sont très contents d'avoir fait des numéros. Est-ce qu'on vous entendait marcher?
Oui, tout à fait.
Donc, lui, on habite derrière, sur la
pauvre. D'accord.
On entend moins.
Eh oui, parce qu'il y a la chapelle qui...
Voilà.
Bon, il faudrait qu'on rase la chapelle, bon, c'est un peu dommage.
Ce sera vraiment dommage. Nous préférons venir.
Oui.
Nous préférons venir vous écouter.
Je ne sais pas quel jour c'était, ils jouaient la Marseillaise ici. J'étais sur la place devant la mairie. C'était discontinu, parce que c'est en bas. Et avec le vent qui soufflait, on avait la moitié.
Ça fait plusieurs dizaines d'années que je joue, mais allez, ça doit faire 20 ans que je ne suis pas monté une fois joué sans qu'il n'y ait pas au moins une personne qui soit venue. Mais même quand il fait des froids redoutables, ou même en pleine nuit, il y a toujours quelqu'un qui vient. Les gens qui baladent dans Fort-Calquier, le son, à un moment donné, ils ne savent pas trop d'où il vient, et puis petit à petit, ils s'approchent. Il monte vers la citadelle, et puis le son devient de plus en plus fort, on se rapproche du son, et après on tombe sur le carillon. Donc là, c'est
on a entendu en fait, mais c'est là, en montant, plus on montait, que j'ai compris que le son venait d'en haut.
Ça a été le but d'ailleurs de. Que le son se diffuse dans tout le.
Alors quand c'est le vent du nord, ce sont les gens de Dauphin qui entendent,
oui,
et quand c'est le vent du sud, c'est un peu plus haut. À Fontaine, ils entendent le bruit du carillon.
L'air humide, c'est idéal aussi pour porter les sons. Les sons se propagent mieux quand c'est humide.
Vous venez souvent l'écouter, le carillon ?
Oui, ça nous arrive.
Oui, mais on l'entend de chez nous aussi.
Ah oui ? Vous habitez l'Inde du Sud ?
Oui, là.
Ah oui, quand même, ça porte.
Oui, mais c'est mieux ici.
Ou alors, il faut aller vraiment dans l'angle, du côté du cinéma. Là, on entend bien.
Il m'a dit, mais on t'entend de partout alors. C'est sûr que si tu fais un canard, tout le monde en profite. Elle me dit, oh, mais moi j'oserais pas. Il y a une jeune dame là qui s'est inscrite à l'école, et comme l'école était fermée, puisque évidemment on pouvait pas y aller, avec ses mains, ils sont montés tous les deux un certain dimanche. Et il m'a dit, t'as pas entendu? J'ai dit, non, il m'a dit, il vaut mieux pas parce que. Elle travaillait à son piano. En arrivant ici, elle était complètement perdue.
Nous, on joue ce qu'on veut quand on veut. Voilà, ça c'est un principe.
Il n'y a pas de restriction de.
Il n'y a aucune restriction, il n'y a rien. Donc, et ça c'est une bonne chose.
C'était le carnet sonore numéro 1, l'entendre du carillon d'Iris Kaufmann, un son que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur SoundCloud. Iris, ce son que nous venons d'entendre, avec de la voix et de la matière sonore, des cloches, justement, comment vous travaillez cette matière sonore? On sent qu'il y a une véritable recherche musicale derrière.
Alors, celui-là, c'était vraiment mon tout premier. Comment je travaille la matière?
Parce que j'imagine qu'il y a un moment de prise de son et ensuite de transformation du son aussi. Il n'est pas forcément brut, ou justement il est tout le temps clair, brut, sans transformation.
Alors là, pour le coup, il n'est pas du tout brut dans ce montage-là, parce que la bande-son qu'on entend derrière, c'est en fait une prise du carillon que j'ai retravaillée. Alors c'est quelque chose d'assez sommaire que j'ai fait dessus, d'assez classique en termes d'électroacoustique. Je me suis inspirée de la cloche coupée de Pierre Schaeffer, et j'ai coupé en fait toutes les attaques de notes et j'ai inversé la mélodie. Mais en fait, c'est une mélodie du Nadalette qu'on entend derrière.
Alors Pierre Schaeffer et Nadalette, peut-être on peut préciser.
Pierre Schaeffer, du coup, qui est plus ou moins le grand théoricien de la musique concrète et électroacoustique, et donc qui a été l'un des premier musicien en fait à détourner des sons et à revenir vraiment vers la nature du son et la sensation qu'il peut provoquer plutôt que son origine. Donc voilà pour Pierre Schaeffer.
Et le Nadalette, joue au moment de Noël.
Voilà, c'est une tradition du carillon. Alors c'est une tradition provençale apparemment, avec un système de comptier. Donc il joue 7 jours avant Noël, tous les jours, un certain nombre de morceaux qui sont répétés.
On y a eu le droit à Forcalquier, effectivement, je confirme, au mois de décembre.
Et après, pour finir de répondre juste sur cette histoire de prise de son, en fait, c'est vrai que c'est une sacrée aventure de vouloir enregistrer des cloches. Ça a des fréquences qui sont vite saturées. Et donc, c'est vrai qu'une bonne partie de cette résidence s'est aussi focalisée sur déterminer quels sont les emplacements pertinents pour capturer ces sons-là. Et j'avoue que je n'ai pas encore trouvé toutes les réponses. Ça
continue. Parce que vous vous êtes déplacé dans l'espace, à différents endroits, pour pouvoir avoir un son qui soit le plus propre ou enregistrable possible.
Bah, ça dépend aussi ce qu'on veut dans le son. C'est-à-dire, par exemple, la première fois que j'ai enregistré le carillon, enfin, j'ai enregistré le carillon de différentes façons, et j'ai fait des prises, notamment en stéréo, où je collais quasiment mes micros à la cage. Alors, du coup, on a beaucoup d'aigus, et on a aussi tous les sons de frappe qu'on entend à travers la cage, quand même. Et plus on va s'éloigner, plus on va avoir aussi l'écho qu'il peut avoir dans l'espace. Parce que bon, ce qu'ils disent dans ce premier carnet, c'est vraiment que finalement le son se déplace. Le son se déplace avec le vent. Et donc à partir de là, c'est tout un questionnement philosophique sur la manière dont on va pouvoir capturer ce déplacement. Et du coup, la manière dont les gens le ressentent aussi dans leur déplacement à eux, quoi.
Et vous êtes allé aussi, il me semble, du côté des cloches de Fort Calquier, de la cathédrale.
Oui, alors je suis tombée au moment de... Parce qu'il faut savoir qu'elles sont actuellement en train d'être restaurées, et toute la partie du clocher aussi. Donc les cloches ont été arrêtées peu de temps après mon arrivée, mais j'ai pu les faire redéclencher. J'ai pas toutes les sonneries, puisque toutes les cloches ne fonctionnaient pas. Mais j'ai pu enregistrer un glas, donc qui est la sonnerie qu'on passe pour annoncer des décès, et le carillon des jours de fête aussi. Voilà.
Fort Calquier et d'autres endroits aussi.
Surtout Fort Calquier et Saint-Étienne-les-Orgues au final, et puis quelques endroits un peu plus anecdotiques où les cloches sonnent plus rarement, comme la chapelle d'Ongles par exemple, dont on reparlera peut-être un peu plus tard.
Oui, volontiers.
Qu'est-ce qui distingue une cloche d'un carillon ? C'est la forme ?
Par rapport à une cloche d'église ? Ou par rapport à quoi ?
Ouais, une cloche d'église différente d'un carillon, et c'est pas du tout... parce qu'on parle de glas pour les cérémonies de funérailles, et de carillon pour les éléments festifs. Hein. Des formes différentes à chaque fois ?
Alors, c'est vrai que, du coup, il y a ce mot qui se balade entre plusieurs choses. Carillon, alors, c'est une manière de désigner un type de sonnerie où on fait sonner, par exemple, on fait sonner toutes les cloches du clocher en même temps. Et ça désigne aussi cet instrument donc, qui se trouve en haut de la citadelle. Et donc, techniquement, en termes de cloche, il n'y a pas de différence de fabrication. Il va y avoir des différences de poids, puisque dans le carillon, les cloches vont être... plus en plus grande et de plus en plus grave, du coup. Et que dans les cloches d'église sont toutes plus relativement énormes, mais au fond, il n'y a pas vraiment de différence. Et dans les sonneries, par contre, entre un carillon, donc on fait sonner toutes les cloches, et un glas, le glas va vraiment se concentrer sur des sensations plutôt... En fait, quand on entend un glas, on se sent triste, assez... à chaque fois, quasiment. Mmh. Il y a quelque chose d'un peu lugubre. La première fois que j'ai entendu le glas de Fort Calquier, je me suis dit, il fait un peu gris aujourd'hui, c'est une drôle de journée. Je me demandais ça, je me sentais pas très bien. Et en fait, ça provoque vraiment cette sensation-là qui nous indique qu'il s'est passé quelque chose de triste, en fait. Ouais. Donc, il parle à nos émotions, quelque part. Ouais. Mmh.
Okay. Carillon, cloche, vous travaillez aussi sur les sonnailles. Là, on rejoint en plus l'agropastoralisme.
Oui, complètement. C'est par là que m'est venue cette espèce de lubie pour tous ces objets sonores. Et j'ai juste commencé à collectionner des cloches que je trouvais sur des vide-greniers. Et puis de rencontre en rencontre... je me suis retrouvée avec un autre collectionneur de cloches dans ma cave, qui en fait était une ancienne bergerie. À l'époque, j'habitais dans une ancienne bergerie. Donc on s'est retrouvés avec toutes nos cloches et on s'est demandé ce qu'on pourrait en faire. Et donc à partir de là, a démarré cette grande aventure campanaire qui dure maintenant depuis déjà 3 ans, en fait. Et on est parti en terrain créer un film pour jouer de la musique dessus avec des cloches. Ça a commencé comme ça, ouais.
Ça va être l'occasion d'en reparler dans un troisième temps. Peut-être nous allons prendre le temps d'écouter un deuxième carnet, le carnet numéro 3, qui est en exclusivité, puisqu'il date d'hier, il me semble.
Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais bien dire un petit mot sur ce troisième carnet. Effectivement, c'est presque une improvisation dans le domaine du montage, parce que c'est très rapide. Mais en même temps, c'est un peu les derniers moments que j'ai passés justement au Rocher d'Ongles sont présents dans ce carnet. Donc en fait, à l'époque, je lisais pas mal ce livre de Michel Chion, qui est aussi donc un analyste de musique contemporaine, et donc son livre s'appelle Le promeneur écoutant. Et il parle justement du traitement qu'on peut avoir des sons qu'on entend autour de nous. Et donc j'étais dans toutes ces réflexions et j'ai mené à cette époque des ateliers dans la classe unique de l'école d'Ongles, où on a d'abord découvert du coup les sonailles et les cloches d'élevage, puis ensuite on a fait un atelier d'initiation à la musique électroacoustique où les enfants ont pu enregistrer des sons vraiment petits, en fait. L'idée, c'était de les amener à détourner des objets et à faire de la musique, ce qu'ils considéreraient comme de la musique à partir de ces objets-là. Et donc ce carnet rassemble un peu tout ça. Il y a des extraits de ce livre que je lisais à ce moment-là et des sons de ces enfants. Et aussi le son de cette cloche de la chapelle d'Ongles qui sonne quasiment jamais, mais qui est sonnée à la main par l'ermite qui habite sur place. Donc voilà, c'est un petit retour sur mes derniers moments de résidence.
Deux mots sur cette résidence avec les enfants de la classe d'Ongles. Vous êtes vus qu'une seule fois ou c'était une série de rencontres ?
Alors on s'est vu deux fois. La première fois j'étais venue avec toutes mes cloches, alors forcément ça attire la sympathie en général, et on en a pas mal discuté, puis on a un peu joué de musique avec, voilà. Je leur ai montré les dispositifs sur lesquels je travaillais pour en faire un instrument, et puis on a fait aussi beaucoup de tintinnabulum, en fait, de bruit.
Tintinnabulum, je ne connaissais pas ce mot.
Ouais, c'est le terme qui désigne le bruit des troupeaux en déplacement. Il tintinnabule. Et un deuxième atelier, voilà, je suis revenue pour un deuxième atelier où là, carrément, on a monté un studio et on a travaillé sur cette notion de l'écoute réduite, c'est-à-dire que ça revient à se concentrer sur les sons plutôt que leurs origines et du coup à aller chercher des sons tout petits. Donc j'avais demandé à chaque enfant de ramener des objets qu'ils aimaient bien. J'ai le souvenir d'une petite qui était venue avec un petit pot de perles, deux petits pots de perles, et qui disait « Il y en a un qui est plus grave que l'autre parce qu'il y a plus de perles dedans et je peux faire plein de sons avec. » Et elle s'approchait du micro et elle faisait bouger ses petits pots de perles.
On va écouter ce carnet numéro 3 qui s'appelle « Promeneur écoutant autour du rocher ». Rocher d'Ongles, donc.
Oui. Nous vivons avec tous les sons. Ils nous accueillent dans la nuit utérine. Ils nous dérangent, mais aussi nous alertent, nous agressent, mais parfois aussi nous mènent au ciel. Ils nous orientent et nous désorientent. Et voilà ce que nous faisons avec eux. Nous les négligeons. Et ne parlons plus que de leur source, ou bien de leur effet sur nous, dont nous nous enveloppons narcissiquement. Leur nature à eux, leur être, sont rejetés par nous dans l'oubli ou l'indifférence. De plus, nous les trions et les parquons. À certains, nous mettons l'étiquette « note de musique » et aux autres, celle en français irrémédiablement péjorative de « bruit ». Autrefois, C'est du moins ce que j'imagine. Le déferlement continu et résonnant des cloches devait contraster avec les bruits secs et discontinus des véhicules, des hommes, des métiers. Et dans ces temps révolus où la musique en lieu public ne résonnait pas du matin au soir, les cloches tranchaient sur le caractère mat, brutal, bruiteux ou fourmillant des bruits humains par ce cadeau, encore rare à cette époque. La note. Encore rare à cette époque. La note qu'on peut chanter, qui éclaire la nuit des bruits de sa lumière. Les cloches, c'était des bouquets de notes à forte portée, des notes plus fortes que tout, tel le son des gros vaisseaux spatiaux dans le film de Spielberg, Rencontre du troisième type, celui qui couvre de son thème tétratonique toute la Terre et en harmonise la diversité. À l'espace urbain, les cloches apportaient donc des notes, des sons tenus, des sons qui résonnent.
On finit ce carnet numéro 3 avec un beau son de cloche qui s'arrête. On entend même le balancier, les cordes derrière.
Oui.
Des cloches, mais aussi d'autres types de sons, puisque des cordes, justement, on a entendu des cordes pincées. Je ne sais pas si c'est ça exactement. Vous allez nous le dire. Il y a aussi du chant.
Oui, c'est vrai. Ce qu'on entend au début, c'est vraiment les sons fabriqués dans l'atelier par les enfants de la classe d'ongles. Et l'ensemble, j'ai choisi pour ce carnet de garder l'ensemble des sons bruts et de choisir des sons du coup que je n'avais pas réalisés et que j'ai juste capturés, voilà, en posant ma voix dessus. C'est une chose que j'avais pas faite encore. Et donc au début, qu'est-ce qu'on entend comme type de d'objets. Il y a des genres de kalimba, il y en a un qui avait fait un truc avec plein d'objets différents, qui tapait sur la table aussi en même temps, qui s'était fait une espèce de boucle rythmique. Il y en a qui jouent avec des psaltérions désaccordés de ma collection personnelle. Et il y a un son que j'aime beaucoup, c'est une ficelle dans un gobelet. Ouais.
Ça, c'est un des sons qu'on
entend beaucoup, ouais.
D'accord.
Et on entend aussi effectivement pendant la sonnerie de la cloche dans la chapelle un chœur que j'ai croisé en fait en me rendant dans cette chapelle pour essayer d'y rencontrer quelqu'un qui pourrait me renseigner sur ces cloches. Et c'est une chorale en fait d'un village avoisinant qui était venu répéter en cachette pendant le confinement. Donc outrepassant l'interdiction de se réunir... ils étaient venus chanter dans cette chapelle et c'était un beau moment parce qu'en fait même l'ermite qui habitait sur place a rarement d'occasion d'entendre de la musique. Donc on s'était retrouvés voilà, dans cette église à ce moment-là et j'ai eu envie de les passer aussi parce que bon, c'est important ces moments-là aussi finalement.
Des chants en occitan.
Oui, du coup c'est une chorale qui chante pas que mais aussi en occitan et ce qu'on entend c'est... c'est un chant assez fameux qui s'appelle « Vakilupulimes demai ».
Iris Kaufmann, en attendant votre documentaire de création sonore que nous aurons le plaisir d'écouter lors du numéro 0 en juillet dans le pays de Fort-Calquier, mis à part cette résidence, vous avez aussi d'autres projets autour des cloches, toujours.
Et oui.
De l'art campanaire.
C'est ça. Ma vie tourne beaucoup autour des cloches. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça a quand même démarré autour de cet usage des cloches et sonailles dans l'élevage agro-pastoral en Massif Central. Et donc, quand on a commencé à s'intéresser à cette thématique-là, on en a tiré un premier spectacle qui retraçait un peu la rencontre qu'on pouvait avoir avec cet univers-là, mais peut-être un peu trop rapidement pour quelqu'un qui a fait de l'anthropologie comme moi et qui a toujours besoin de passer beaucoup de temps sur les terrains pour vraiment m'approcher du sujet. J'avais donc envie d'y retourner depuis très longtemps. Donc c'est une chose que je recommence à faire aujourd'hui et qui va amener d'autres types de restitutions. Donc là, on part vraiment sur du collectage sonore, d'entretien et de paysage, avec dans l'idée peut-être de trouver une manière d'étudier comment ces sons se déplacent justement dans les espaces naturels, en fait, comment ils résonnent en fonction du creux d'une vallée ou de telle météo. Donc c'est des questions qu'on commence à se poser dans les prises de sons. Et donc il y a cet aspect de recherche, voilà, autour de comment et pourquoi un éleveur choisit de mettre un objet sonore à son animal et comment ça se passe ensuite. Et ça amènera normalement plusieurs restitutions, notamment un livre de vulgarisation qui devrait être accompagné d'un support sonore comportant des pièces d'électroacoustique composées à partir de ces prises de son. Et si tout se passe bien, une exposition multimédia verra le jour d'ici 2 ans. Voilà. Et en parallèle, on continue aussi ces projets de musique live autour des sonailles en travaillant en fait à la création d'un instrument inédit qu'on a nommé le campanophone, une espèce de carriole à roulettes, donc déplaçable et tout terrain, munie de 2 claviers de sonailles, 2 portiques de cloches et 1 portique à bourdon. Donc je crois qu'il y a une 50aine de cloches en tout dessus. Et voilà, on a dans l'idée de pouvoir le transporter un peu partout avec nous et d'en tirer de la musique, vraiment.
Et vous en avez déjà joué ou ça reste pour l'instant un projet ?
Alors, on est encore encore en laboratoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas complètement terminé la conception de l'objet, mais on a déjà une armature démontable qui est stable et qui accueille nos cloches avec beaucoup de confort. Et la première est prévue le 14 juillet dans le Sancy, donc en Puy-de-Dôme.
C'est un peu loin pour qu'on le relaie sur les ondes de fréquence Mistral.
Et il est stocké où, cet instrument, le laboratoire
L'instrument est ici, il est démonté en ce moment. Et une partie des cloches sont ici, puisqu'une partie des cloches sont les miennes. Alors, par contre, voilà, c'est un instrument dont on ne peut jouer que quand on se réunit avec les créateurs, puisqu'on a chacun des cloches à y ajouter. Donc, c'est pas un instrument qu'on peut vraiment répéter tout seul.
Donc, même en laboratoire, il se monte et il se démonte en permanence.
Ouais.
Ok.
Ouais. Enfin, en tout cas, on peut le monter, et le démonter, ce qui fait qu'il est pratique à transporter. Il rentre dans le coffre de la voiture.
Et on parlait des sonailles, donc des cloches autour du cou des animaux, de l'agro-pastoralisme.
Oui.
Il y a un son qui peut-être correspond davantage à ce thème que vous vouliez aussi nous présenter à la radio aujourd'hui, qui s'appelle « Pour qui souffle le vent dans la cabane du berger Albert ».
Alors oui, c'est un enregistrement, un montage sur lequel je travaille encore en ce moment. Et qui sera présenté aussi demain dans le cadre d'une série de concerts qui s'appelle Vibération, des concerts dans l'espace urbain à Marseille, concerts sous casque. J'en profite pour leur faire un peu de publicité.
Pas de souci.
Ça sera demain à partir de 13h au Parc Longchamp à Marseille. Et c'est un montage sonore d'une après-midi passée avec un ancien berger, un vieux berger de 93 ans, originaire de la vallée de la Clarée dans les Hautes-Alpes, et qui sculpte des bâtons sur lesquels il raconte en fait le souvenir de ses transhumances à pied. Donc j'étais allée le voir pour enregistrer ses cloches, parce qu'il a une centaine de cloches accrochées dans sa cabane. Et au final, il nous a parlé de beaucoup d'autres choses, et j'ai eu envie d'en tirer un petit extrait qui évoque notamment son rapport à la nature. Voilà, donc pour qui souffle le vivant.
C'est ce qu'on va écouter, ça dure 5 minutes.
Pèlerin. Pèlerin, que la route même marche à votre rencontre. Que le vent vous protège. Le vent, il part un peu au bois. Voilà. Parce que le vent, il nous protège, le vent. Hein. Un souffle favorable, le soleil du matin réchauffe votre corps. Que de fraîches fontaines jalonnent votre route. Quand tu as la route à pied, comme ça, tu rencontres des fontaines des fois. Tu le marques sur un bâton. C'est pour ça qu'il y a marqué Nevache, la vallée de Nevache, tu vois. Tu vas, au lieu de monter au Mont-Genève, tu prends la vallée de la Clarée, la première fontaine là-bas. Il y a un endroit où les ânes, ils s'arrêtaient pour boire. Alors je vais vous faire la fontaine là. Ça, il n'y a que moi qui peux le raconter, parce que qu'est-ce qu'il a voulu marquer là. Alors moi, je raconte parce que c'est moi qui l'ai fait. Nevache, ça m'a fasciné, Nevache. Je connaissais Nevache comme ma poche. Il n'y a pas un sommet à Nevache, le jour où j'y allais. Vous verrez les montées, les montagnes là-haut. Partout où vous voyez le sommet, je suis allé. De partout. Tous les sommets, j'ai fait. Des jeunes, hein. Je faisais ça des jeunes. Moi, quand je voyais un sommet, quand j'étais jeune, il fallait que j'aille au bout du sommet à voir. Quand on voit les vallées comme ça, c'est magnifique à voir. On ne peut pas l'expliquer. Parce que c'est vivant, les vallées, attention. Hein. C'est quelque chose de très vivant, les vallées. C'est le vent qui peut expliquer. Le vent te raconte un tas de trucs. Là. C'est formidable. Moi, quand je vois qu'il fait du vent, des fois, ça m'est arrivé, je me couchais dans l'herbe comme ça. Et j'écoutais siffler le vent. Le vent, il te parle. Tu racontes des choses, le vent. Ça, c'est un peu le fils ventre. Lui, il a fait un peu des études. Et un jour, il me racontait ça. Nous, quand on était gamins, à Coudouce, on jouait comme ça. On jouait à cachette. Et on allait se coucher dans l'herbe, on écoutait chanter le vent. Ah, tu vois ce que je te dis? Je n'invente rien, moi. Moi, je suis la nature. C'est la nature qui me parle. Voilà. C'est la nature qui parle. L'eau, elle parle l'eau. Moi, des fois, je dis à des bergers, alors, tu arrives de garder, qu'est-ce que tu as vu dans la nature? Tu n'as rien vu dans la nature. Tu n'es pas un berger. Moi, je te le dis franchement. Parce que la nature, elle te parle. Tu as ça, tu as vu les oiseaux, tu as vu, tu vois. Tu as vu différentes plantes d'herbes, tu cherches à comprendre les herbes que c'est. Les premiers genépis, c'est les bergers qui ont découvert. Une fois, je gardais avec un, il est de Villelor, là. Alors, j'arrive là-haut, j'étais monté pour le remplacer. J'ai dit, ah, ces endroits, il doit y avoir des genépis. J'ai monté les fers rochers, j'ai ramené un gros bouquet de genépis comme ça. Le soir, à la cabane en bas, le soir. Et deux grosses pierres. Il y en a une que je l'ai là, une que j'ai au cimetière, une grosse pierre. Alors, je dis, regarde ce que j'ai ramené dans le sac. Il me dit, oh, il pèse le sac, mettez-vous, qu'est-ce que tu as ramené? Deux grosses pierres. Elles sont magnifiques, ces pierres. Et j'ai ramené du genépi. Et il était émerveillé le soir. La pierre, il y en a une qui est là, la pierre. Je te la fais voir, parce que tu ne me crois pas. C'est de parler, c'est pire. Ce que les hommes ont vu, c'est pire. Va voir ce que les hommes ont vu. Moi, comme c'est beau, moi, ce qui m'a plu, c'est ça. C'est des corps dans la pierre. On ne peut pas expliquer ce que c'est. Hein. Qui c'est qui va l'expliquer? Ça, il faut être berger fou pour comprendre ça. Les bergers, quand ils sont fous, c'est comme ça.
Merci Iris Kaufmann pour ce son, pour cette entrée poétique dans l'univers de ce berger, de la nature qui parle, de Nevache, de cette superbe vallée de la Clarée.
Eh ben de rien, et puis voilà, c'était une petite dédicace à Fréquence Mistral en passant, puisqu'il est question de vent.
Et là c'est un extrait de ce son, il est plus long.
Oui, alors il est actuellement déjà plus long, beaucoup plus long et plus aéré. Il n'y a pas beaucoup plus de paroles, mais là, comme c'était très dense, j'ai rajouté quand même beaucoup de prises de vent pour qu'on soit plus dans la cabane. Et je pense que c'est un document qui va se rallonger parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière, en fait, et qui dort dans mon ordinateur depuis 2 ans. Il était temps de les ressortir.
Si on a envie d'écouter vos sons, est-ce qu'il y en a certains qui sont disponibles sur Internet?
Oui, alors j'ai un SoundCloud, notamment, et j'ai un pseudonyme sur SoundCloud. Le pseudonyme, c'est Filusa, ça s'écrit F-I-L-U-S-A, Filusa.
Donc là, on peut y retrouver vos carnets sonores.
Voilà, on peut y retrouver les carnets sonores et quelques autres choses un peu plus anciennes. Et puis bon, surtout tout ce qui va arriver là dans les mois à venir. Ouais.
Tout un tas de projets pour le futur. Est-ce qu'on aura oublié des choses que vous allez mener prochainement? Ou c'est déjà suffisant? Des documentaires sonores, des livres?
C'est déjà pas mal.
Spectacle.
J'espère bientôt des vacances aussi, ça serait pas mal.
Merci Iris Kaufmann d'être venue dans les studios de Fréquence Mistral à Manosque et on espère vous revoir bientôt et on annoncera ce numéro 0 qui va avoir lieu en juillet bien sûr dans le pays d'Offre-Calqué. On invitera les auditrices et auditeurs à y assister et on relaiera donc l'information avec davantage de précision. Merci.
Merci.